Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel.
Bonjour, il est 9h10, nous sommes en direct avec une version très réduite de Culture Média en ce deuxième jour de grève à Europe 1. On va en reparler. Merci d'être à l'écoute, merci de votre soutien. Émission réduite, je le disais, avec un entretien avec Bernard-Henri Lévy pour un documentaire co-réalisé par ses soins, Une autre idée du monde, autour de ses grands reportages sur les guerres oubliées de la planète. Mais avant cela, les audiences télé et l'essentiel des médias avec Louise Bernard. Bonjour Louise, on va commencer par les audiences.
Bonjour Philippe.
Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé, Louise ?
TF1, le foot, Finlande-Belgique, 4 millions de téléspectateurs, 18,9% de part d'audience. C'est un score dans la moyenne de ce que font les matchs de foot en ce moment, les matchs de l'Euro. Ensuite, c'est France 2 avec la fête de la musique en hausse par rapport à l'année dernière. 2 380 000 téléspectateurs, 15,6% de part d'audience. Bon score donc. Et puis France 3 avec une rediffusion d'une série sous la peau. 2 300 000 téléspectateurs devant le premier épisode. 10,3% de part d'audience.
Culture Média.
À la une de l'actualité des médias, la grève qui se poursuit ici à Europe 1.
Oui, grève qui dure depuis vendredi, reconduite aujourd'hui encore. Vous l'avez peut-être remarqué, au-delà de notre émission qui n'a pas pu avoir lieu hier, et reste perturbée ce matin. Pas de matinale habituelle depuis hier. Présentateurs absents, remplacés. Des journaux plus courts, moins fournis. Et en coulisses, certains techniciens et préparateurs d'émissions sont en grève, au service web aussi. Hier, plus de 70% de la rédaction a été mobilisée, d'après un décompte des grévistes. Une grève pour réclamer l'annulation de la procédure disciplinaire visant un des journalistes de la rédaction, Victor Dolande. Une procédure qui illustre, selon un texte des syndicats, un management brutal et inadapté à l'œuvre à Europe 1 depuis plusieurs années. La grève intervient aussi dans un contexte de rapprochement d'Europe 1 avec la chaîne CNews de Vincent Bolloré, ce qui inquiète les salariés grévistes qui ne souhaitent pas voir Europe 1 devenir un média d'opinion à son tour. Et face à ce changement de ligne éditoriale qui se dessine, ils souhaitent obtenir la mise en place d'une clause de conscience. C'est un dispositif qui permettrait de quitter l'entreprise en bénéficiant d'indemnité. Une nouvelle assemblée générale doit se tenir dans moins d'une heure pour décider de la possible reconduction de cette grève.
Et c'est dans ce contexte qu'Arnaud Lagardère, le patron du groupe auquel appartient Europe 1, a donné une interview au Figaro pour tenter de rassurer les salariés.
Oui, il affirme qu'Europe 1 ne deviendra pas une radio d'opinion et ajoute que dire qu'Europe 1 passe sous la coupe de Vivendi, c'est un fantasme qui frôle le complotisme. Fin de citation. Vivendi, c'est le groupe de Vincent Bolloré. Tout en assumant des synergies avec ce groupe, Canal+, il y a un véritable intérêt à nouer un partenariat très fort, dit-il.
Et ces synergies sont visibles dans la nouvelle grille de rentrée dévoilée par Arnaud Lagardère dans cette même interview hier.
Oui, principale nouveauté, l'arrivée de Laurence Ferrari sur l'antenne pour le 18-20, une émission qui sera en partie codiffusée sur CNews. Le journaliste Dimitri Pavlenko reprend la matinale de Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk, le grand rendez-vous, l'interview politique du dimanche, en plus de son interview politique quotidienne. Historiquement Vôtre et Culture Média continue, et puis deux fois plus de Christophe Ondelat sur l'antenne, il hérite d'une heure d'émission en plus.
Tout autre chose dans le reste de l'actualité média, une nouvelle plainte déposée contre Patrick Poivre d'Arvor.
La quatrième pour viol, ce qui porte à 7 le nombre de plaintes contre l'ancien présentateur des JT de TF1. Les faits se seraient déroulés dans le bureau du présentateur alors que la plaignante était une jeune journaliste de 24 ans. Selon BFM TV, elle avait déjà été entendue par la police dans le cadre de l'enquête, mais elle n'avait pas porté plainte car les faits étaient prescrits. Elle a finalement changé d'avis.
Et puis on termine avec des nouveautés séries.
Oui, Laurent Lafitte va incarner Bernard Tapie dans une série pour Netflix, information du magazine Première. 6 épisodes sont en cours d'écriture. Il devrait se concentrer principalement sur la jeunesse de Bernard Tapie. Le tournage est prévu en 2022 et d'autres saisons pourraient suivre ensuite. Et puis une suite aussi pour la série Je te promets, diffusée sur TF1. Une saison 2 annoncée pour cette adaptation française de la série This Is Us. 12 nouveaux épisodes seront tournés cet été.
Merci beaucoup Louise Bernard, à très vite. Avant d'entendre Bernard-Henri Lévy parler de son documentaire Une autre idée du monde, musique avec Martin Garrix, We Are The People.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire. Sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you. Can I confess? I feel your heart beating in my chest. You come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind.
could be mad, but you might just be right. Heart that works from a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight, you pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind, could be mad but you might just be right.
We are the people, c'était Martin Garrix. Dans un instant, Bernard-Henri Lévy pour un entretien réalisé hier pour des raisons d'agenda. Aucun rapport avec la grève. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média. Philippe Bondel.
Bonjour Bernard-Henri Lévy.
Bonjour.
Faut-il vous présenter ? Vous êtes philosophe, écrivain, journaliste, connu par vos seules initiales, peut-être l'intellectuel français le plus médiatisé depuis Jean-Paul Sartre. Vous tenez aussi votre bloc-notes dans Le Point, vous êtes globe-trotteur, vous vous déplacez sur les points chauds. Vous aviez l'habitude de publier vos reportages dans Le Monde, désormais c'est dans Paris Match. Et c'est justement l'objet d'un documentaire que vous co-réalisez avec Marc Roussel, intitulé « Une autre idée du monde ». Ce sera ce soir à 21h sur Canal+, et ensuite évidemment en replay. Il y a déjà les altermondialistes. Comment vous définiriez cette autre idée du monde ? Vous vous sentez différent de ceux qui se disent déjà différents ?
Peut-être, oui. Je trouve qu'on est... Nous avons en France une vision du monde que je trouve souvent égoïste, un peu auto-centrée, centrée sur nous-mêmes. Donc c'est une autre idée par rapport à ça. Voilà.
Ce film met en scène 50 ans de vos combats contre l'injustice, contre la haine, contre la peur. 9 guerres modernes jusqu'aux portes de l'Europe. Je voudrais qu'on entende votre profession de foi. C'est en tout début de ce documentaire.
Le temps a beau passer, j'ai beau tout faire pour m'évader, m'endurcir, je ne m'y résous pas. Et face à ces scènes, face à ces images de ce que l'homme peut faire de pire à l'homme, je réponds comme je l'ai toujours fait. Écrire, bien sûr, témoigner sans doute, mais d'abord, y aller.
Aller sur place donc, on va en parler, la forme compte autant que le fond, je ne vous apprends rien. Juste une remarque que nos auditeurs se sont peut-être faites lorsque vous êtes le récitant, car vous êtes le récitant de votre propre documentaire, vous n'avez pas du tout la même voix que dans la vie. Pour quelle raison ? Pourquoi cette voix grave et très lente ?
Ben, elle est peut-être à l'unisson des images qui sont graves. Ces images que j'ai rapportées de ces lieux parfois terrifiants, c'est vrai qu'elles sont tragiques.
Elles sont tragiques, elles sont pas lentes, parce que vraiment c'est très 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 puissant ce qu'on peut voir dans ce documentaire. Votre premier déplacement présente justement des images terribles, des femmes, des hommes, des enfants, victimes de Boko Haram en Afrique. Il et elle ont subi des meurtres, des mutilations, mais contrairement aux images des JT, vous donnez à voir les cadavres, les amputations, vous ne floutez pas ni les blessures, ni les visages. Pourquoi ce choix ?
Parce que je crois que c'est l'attitude juste. On ne peut pas éternellement se voiler la face. On peut se mettre, comme aujourd'hui, un masque sur la bouche, mais pas sur les yeux. Je crois qu'il faut, voir le monde tel qu'il est. Ou alors, on se réveille un beau matin et ça a été le Rwanda. Et on ne l'a pas vu.
Il faut raconter la genèse de ce documentaire. Il suit en parallèle 8 reportages consacrés aux guerres oubliées que vous aviez données dans Match pendant l'année 2020. Comment vous avez choisi ces endroits ? Pas tous, mais est-ce qu'ils ont un point commun ? J'imagine, quel est le point commun ?
Oui, le point commun, c'est que c'était un contrat avec Olivier Royan, le directeur de la rédaction de Match à l'époque, qui est mort à la toute fin d'ailleurs du tournage du film. Et l'idée, c'était ça, c'était dans le fil de la vocation de Match, hein, qui est un grand journal de reporters, c'était d'aller dans des endroits difficiles, dans des endroits où on n'a pas accès comme ça facilement, des endroits inhospitaliers. Et des endroits oubliés, des endroits où se passent des choses qui ne font pas la une de l'actualité. Alors, c'est par exemple la Somalie, Mogadiscio, où il y a peu de reportages, je crois.
Je vais commencer par mettre le cap sur le Kurdistan syrien avec vous, que le président turc Erdogan avait envahi en 2019 et dont vous dites que nous l'avons honteusement laissé tomber. Vous êtes dans la ville de Kamishli, vous allez dans une maison à l'adresse tenue secrète où se trouve l'inspirateur de la révolution démocratique kurde, il s'appelle Haldar. Puis vous allez voir le général en chef des forces kurdes, Masloum Kobane. Il est dans son bunker, séquence très forte, car vous mettez en relation le général avec Emmanuel Macron, le président, que vous appelez avec votre portable en mode haut-parleur. Je vais faire entendre le son quelques instants, car tout est en anglais.
We thank your effort because you spoke to the Russians and this has a positive impact on the ground.
I just heard about the situation with President Trump to ask him to increase the pressure on the Turks.
Of course.
À l'antenne, il y a les sous-titres. Emmanuel Macron lui dit « J'ai demandé au président Trump de mettre la pression sur les Turcs. Dans quelle mesure intervenez-vous ? Car vous dites « Moi, je ne suis pas journaliste, mon parti pris est inverse. Je compte intervenir dans ce que je verrai. »
Oui. Bien sûr, c'est ce que j'essaie de faire à chaque instant de ce film et ce que j'ai tenté de faire dans toute ma vie de reporter. Je n'ai pas la religion de l'objectivité. Moi, je fais des reportages pour changer la situation que j'observe, pour réparer le monde, comme on dit, comme je pourrais dire pompeusement. Là, je suis en effet, c'est très important pour moi de mettre en relation le chef militaire des Kurdes et le président de la République française.
Et pour quelles conséquences ? Ce ne furent que des mots ou il y a eu des actions concrètes ?
Ce n'est pas que des mots, non. Il y a eu ensuite, ce que je peux vous dire, parce que ce que je peux vous dire ici sur cette antenne, c'est qu'à ce moment-là, le président de la République française disant « je fais pression sur Erdogan et j'ai demandé à Trump de le faire aussi », c'était vital pour les Kurdes. C'était vital. Et la France a eu à ce moment-là un rôle capital.
On va parler ensuite de Daesh. Vous êtes allé sur ces terres, sur ces anciennes terres. On est une émission média, je ne vous apprends rien. Je vais vous poser une question média, vous le racontez vous-même. Vous aviez l'habitude de donner vos reportages au journal Le Monde. Pourquoi Paris Match cette fois-ci ?
Parce que je voulais des images, parce que je voulais des photos aussi. Parce que j'avais rapporté du Nigeria des images tellement terribles que je me suis dit, cette fois-ci, c'est ça qu'il faut faire.
Je vais vous dire le sens de ma question. Il y a un petit sous-texte. Dans Paris Match, le 10 juin dernier, Émilie Lanaise dresse un portrait de vous et écrit « Le Monde, ce quotidien dont la ligne éditoriale le hérisse ». Est-ce que vous confirmez ? Est-ce que la ligne éditoriale du Monde vous hérisse ? Et si oui, pour quelle raison ?
Non, je crois pas avoir dit ça à Émilie Lanaise. C'est entre guillemets,
monsieur. Oui, bien sûr.
Entre guillemets, oui. Ça me surprend. Non, non, il n'y a pas de hérissement. Mais surtout, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais de ces images rares, les photos de Marc Roussel ou de Gilles Herzog, qui sont des photos hallucinantes de Mogadiscio en ruine. Qu'est-ce que je fais de ces images de ce Verdun gelé ukrainien ? Un grand magazine de reportages écrits et d'images, ça m'a semblé cette fois-ci adapté.
Et je le confirme, les images sont très, très fortes. Et dans ce documentaire qui passe ce soir, co-signé Bernard-Henri Lévy, une autre idée du monde. Il est avec nous dans Culture Média. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média. 9h, 11h,
Philippe Vandel.
9h-11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Bernard-Henri Lévy, écrivain, philosophe, qui co-signe un documentaire qui passe ce soir, le titre « Une autre idée du monde ». C'est à 21h sur Canal+, et ce sont 8 guerres oubliées, filmées, documentées en 2020 pour Paris Match et maintenant pour la télévision, avec des séquences très très fortes comme celle-ci. Vous êtes dans une prison, voir les Français de Daesh. Très impressionnant votre rencontre avec un prisonnier. Il est filmé à visage découvert, il a des broches dans la jambe, il a la parole libre. Et ce qui frappe, c'est son déni total quand vous lui demandez pourquoi il s'est engagé aux côtés de Daesh.
Oui, c'est le déni et c'est cette phrase hallucinante. Ici, c'est pas vous qui... Il me le dit.
Ouais.
Ici, c'est pas vous qui posez les questions, c'est moi.
Ouais. Voilà. Il le dit dans un français parfait, puisqu'évidemment, il arrive
c'est un français.
De France.
C'est un français. Je suis dans une cellule avec un groupe de djihadistes qui sont tous français.
Vous avez mis une cagoule. Pour quelle raison?
C'est la seule condition que les Kurdes m'ont imposée. C'était pour ne pas que, comme c'était des Français, pour ne pas qu'ils me reconnaissent.
Ensuite, il y a une séquence dans une prison pour enfants, dont cette fois les parents ont quitté la France et sont allés s'engager auprès de l'État islamique, auprès de Daesh. Il y a un enfant qui sert de traducteur et qui vous a séduit. Vous demandez son nom sur son passeport pour éventuellement intervenir en sa faveur. Pour quelle faveur? Pour son retour en France?
Pour son retour en France. Moi, je suis partisan que ses enfants reviennent en France, sauf exception, sauf s'ils étaient assez grands pour avoir trempé dans les crimes de leurs parents. Pour la plupart d'entre eux, ça n'est pas le cas. Et je crois que les enfants ne sont pas responsables des crimes des pères.
Voilà. Vous êtes ensuite avec les femmes combattantes kurdes, la nuit, autour d'un feu de camp, quand il y en a une qui chante, séquence très émouvante, et aussi à l'entraînement, quand elles sont avec les armes. Qu'est-ce qui vous a le plus ému?
Leur courage et le fait que c'est... Elles ont les mêmes rêves que toutes les jeunes filles du monde. Le rêve d'avoir une maison, le rêve d'avoir un boulot, le rêve pour certaines d'avoir des enfants... Et elles sont des Antigones qui veillent sur les morts du Rojava. Et je trouve ce destin terrible, tragique, bouleversant. Ça me hante d'ailleurs.
Dans votre dernier livre, en parallèle à ce documentaire, sur la route des hommes sans nom chez Grasset, vous dites, ce que je pense au Kurdistan, vous dites « J'ai plus d'amis chers au Burundi qu'à Saint-Germain-des-Prés ». Vraiment? Ou est-ce que c'est de la provocation?
C'est pas de la provocation, c'est peut-être, mais c'est pas faux. J'ai des amis chers. Dans le cas du Burundi, c'est vrai d'ailleurs. J'ai des amis très chers au Burundi, qui datent de l'époque où, en effet, pour Le Monde, j'avais fait un grand reportage qui s'appelait, je crois, Fin du monde à Bujumbura. Et oui, bien sûr, c'est assez vrai.
Il y a des voyages parfois à très haut risque. Je dis parfois, mais déjà, Kurdistan, c'était très, très, très dangereux. En Libye, à Tarouna, vous êtes dans un convoi qui tombe dans une embuscade avec des hommes armés dans des 4x4 blancs. S'en suit une course-poursuite. Comme j'avoue, je n'en avais vu qu'au cinéma. Explication, votre voiture avait été spotée sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que votre plaque circulait. Comment vous voyagez quand vous voyagez dans des pays comme celui-ci?
Je voyage de manière peut-être un peu inconsciente et un peu imprudente. C'est-à-dire qu'en effet, j'avais une voiture normale avec un chauffeur qui, grâce au ciel, a eu beaucoup de sang-froid et beaucoup de courage, qui a décidé de ne pas obtempérer, de ne pas s'arrêter. Alors on voit, il fonce dans la voiture, dans le bas-côté,
ouais.
Quand une voiture essaie de le bloquer, il arrache sa portière, et la voiture de mon deuxième caméraman fait la même chose de l'autre côté. Je voyage comme je peux, sans assez de précautions, sans doute.
On a peur pour vous, on voit un combattant islamique hurler « Pas de Bernard Lévy, pas de juifs sur notre terre », et les sons parfois en disent plus que les mots. Ça mitraille vraiment autour de vous. Là, c'est une autre séquence, c'est pas la séquence dans les voitures. Vous n'avez jamais peur, Bernard-Henri Lévy, ou alors vous avez très peur, mais vous la surmontez. Dans les deux cas, quelle que soit votre réponse, c'est extraordinaire.
J'ai peur, mais je la surmonte, oui, bien sûr. Et dans le cas de cette embuscade à Tarouna, cette embuscade libyenne, mon obsession, c'était qu'on continue à filmer. Mon caméraman, moi-même, au téléphone portable, qu'on filme.
Et puis aussi une part de mise en scène, je ne suis pas le premier à le dire, je ne suis pas le dernier, qu'on vous reproche parfois. Et alors, ce qui est frappant, c'est que vous n'essayez même pas de tourner le dos à cette critique. On vous voit nager le papillon dans une rivière au Kurdistan. Quand on fait un documentaire, chaque seconde est précieuse. À quoi sert cette séquence? Je vois que ça vous fait sourire.
Ça sert à montrer que j'aimerais bien que le Kurdistan soit plus en guerre, que j'aimerais bien que mes amis kurdes puissent avoir cette vie normale dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un pays magnifique, avec une culture sublime, avec un appétit de vivre extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de faire les sentinelles pour nous et de combattre Daesh?
Je souris parce que la Provence n'est pas en guerre. On voit également dans votre village de Saint-Paul, devant ce que certains appellent comme ça, au loin, au détour d'une ruelle, Ariel Dombal, votre épouse qui passe. Même question, pourquoi cette séquence?
Parce que c'est la vérité. Parce que entre deux, j'ai passé cette année 2020 à tourner ce film, essentiellement ça. Mais enfin, je revenais à Paris, et quand je reviens à Paris, ben je suis comme vous, comme ceux qui nous écoutent.
Oui, mais on n'est pas obligé de mettre en scène sa vie privée.
Non, mais comme ce film, c'est un jour, je ne mets pas en scène ma vie privée, elle apparaît une demi-seconde.
Ah, vraiment? Ouais.
Une demi-seconde, voilà. Mais dans la mesure où ce film est mon journal de l'année 2020, c'est un journal de bord, il aurait été malhonnête de faire comme si j'étais un pur esprit. Non, j'ai une femme, j'ai une vie.
On voit même passer très rapidement des gilets jaunes. Je reviens sur l'histoire de votre engagement. Tout a démarré en 1971, en pleine guerre de libération du Bangladesh. André Malraux exhorte les jeunes à former de nouvelles brigades internationales. Vous aviez seulement 23 ans et vous lui écrivez une lettre pour lui dire quoi?
Pour lui dire que je suis bouleversé par son appel et que je suis prêt à m'engager avec lui.
Et là, vous devenez fonctionnaire pour le gouvernement Bangladesh, c'est bien ça?
Contractuel, plus que fonctionnaire.
Votre rôle, c'était lequel? Vous faisiez quoi?
Mon rôle, c'était de faire des notes sur la planification. J'étais à l'époque, j'étais jeune philosophe, j'étais un tout petit peu économiste aussi, élève d'un économiste qui s'appelait Charles Bethlehem, un économiste pro-chinois, et je faisais des notes sur comment on construit un État à partir de rien, c'est-à-dire à partir de décombres et de ruines d'une guerre de libération.
50 ans après votre première visite là-bas au Bangladesh, vous y retournez, il est là-bas la seule femme dirigeante d'un pays musulman, vous êtes avec elle et vous lui citez justement André Malraux qui disait que les gens qu'il admire le plus, ce sont les gens qui font la guerre sans l'aimer. Et je me suis dit que c'était peut-être un peu votre cas.
Oui, bien sûr. Je n'aime pas la guerre. Je pense qu'à certains moments, elle est nécessaire parce qu'elle évite un mal plus grand. Et dans ces cas-là, il faut la faire, mais sans l'aimer. Je n'aime pas la littérature de guerre, je n'aime pas la mythologie de la guerre, je ne crois pas que les hommes se grandissent dans la guerre, mais je crois qu'il y a des moments où on n'a pas le choix et où il faut la faire, contre le nazisme, contre les fascismes divers, contre Daesh.
Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. Je rappelle ce documentaire que vous co-réalisez avec Marc Roussel, Une autre idée du monde. C'est ce soir à 21h sur Canal+, et évidemment en replay.
Merci.
Culture Média continue. Merci d'être à l'écoute. Je l'ai dit en préambule aujourd'hui, pas plus qu'hier. Culture Média n'est pas en mesure d'assurer une émission en direct dans sa configuration habituelle. On va donc revenir sur des moments déjà vécus, en l'occurrence le 25 mai dernier. Il est question de médias et de gastronomie, car c'est de la culture. A tout de suite.
L'émission référence sur les médias,
c'est Europe 1 Culture Média.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Bondel.
Bonjour Sophie Menu Jovanovic.
Bonjour Philippe.
Vous êtes la cheville ouvrière de Cuisine des Vins de France, c'est vous qui signez l'édito, magazine culinaire. Quel est votre titre? J'ai pas trouvé l'ours. L'ours est la liste des contributeurs. Quel est votre titre dans le journal?
Alors je suis rédactrice en chef de Cuisine des Vins de France, tout simplement. Mais je suis aussi, en fait, c'est aussi ma société qui fait le magazine de From Scratch, on va dire.
Du début.
À la fin jusqu'à l'impression.
C'est presque une institution, Cuisine des Vins de France. C'est votre 200e numéro. D'une phrase, comment qualifieriez-vous Cuisine des Vins de France?
Convivial, gourmand et qui a su se réinventer.
Bonjour Philippe Toinard.
Bonjour Philippe.
C'est pas un peu votre portrait ça? Convivial, gourmand, qui a su se réinventer. Vous êtes le rédacteur en chef de 180. Alors je vais refaire ma vanne. C'est pas parce que vous faites demi-tour, c'est 180 degrés C.
180 C, c'est en fait dans 90% des recettes, c'est la température du four quand vous devez cuire quelque chose. Et puis c'était il y a 9 ans quand Eric Fesneau a eu l'idée de créer ce magazine, de faire une revue à 180 degrés. C'est un peu différent de ce qui se faisait sur le marché et dans son contexte économique et dans son contenu.
Vous sortez 4 numéros par an, un par trimestre, vous en êtes au numéro 23, c'est beaucoup ou c'est peu. En tout cas, quand vous êtes lancé, on vous disait que vous ne tiendrez pas un an. Comment vous qualifieriez 180 degrés C?
180, c'est alors déjà, c'est une revue qui a un profil économique un peu différent, puisque nous, on n'a pas de publicité. Mm-hmm. Donc, on ne vit que parce que les Français sont amoureux de la cuisine et qu'ils nous achètent. Et notre idée, c'était d'être une revue très axée sur la saison. C'est pour ça qu'on fait 4 numéros par an. Mmh. On respecte et on sort à la date des saisons. Avec un tiers de reportages sur des gens assez peu connus, mais qui font des métiers absolument formidables. Un tiers de recettes, faciles à faire à la maison. Et un tiers de sujets de fond ou de billets d'humeur.
Ça allait être ma question à tous les deux. À qui s'adressent vos magazines? À tous? Aux connaisseurs? Aux puristes? Aux touristes? Sophie?
Moi, je dirais que Cuisine et Vin s'adresse peut-être un peu plus aux connaisseurs, parce qu'on fait des recettes assez experte quand même. C'est déjà, on n'achète pas un magazine de cuisine par hasard. Je pense qu'il faut déjà au départ aimer. Nous, on a aussi la particularité de s'appeler Cuisine et Vin de France. Donc, on laisse quand même une grande place au vin et au vin de notre pays, parfois d'ailleurs aussi. Donc, qui nous achète les femmes, évidemment, mais les hommes nous lisent beaucoup aussi à cause de ça, sans doute. Alors, même s'il y a de plus en plus d'appétence des femmes vers le vin.
Ouais. Et même question à vous, Philippe Toinard. La cible, c'est plutôt les connaisseurs ou c'est plutôt les débutants qui viennent à la cuisine par ce biais, parce que ça ressemble à un MOOC. Enfin, c'est une contraction de magazine et de book.
Exactement. Alors, nous, on avait fait une petite étude il y a 3-4 ans sur le profil de nos lecteurs pour voir un peu à qui on s'adressait. Et on avait 50% d'hommes et 50% de femmes. Ouais. Voilà. Et on avait plutôt une moyenne d'âge qui est entre 35 et 50 ans, CSP+, et 50% province, 50% Paris.
Ma question était, est-ce que ce sont des experts? Est-ce que ce sont de très bons cuisiniers?
Non,
des débutants, mais qui viennent à la cuisine par vous?
On a de tout, parce qu'il y a différents strates de niveau de recettes. Donc, par exemple, quand on prend les recettes du Divin Quotidien ou de Homemade, qui sont des rubriques qui sont là depuis le début, ça, tout le monde peut les faire. Si on prend le marché, ça peut parfois être un niveau un petit peu au-dessus. Et donc, il n'y a pas besoin d'être un grand connaisseur pour faire de la cuisine. Si vous lisez la recette ligne par ligne, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas.
Je souris parce que j'ai raté tellement de recettes que je ne peux absolument pas souscrire à la phrase que vous venez de dire. Depuis le temps que j'en rate des recettes.
C'est impossible si vous lisez Cuisine et Vin de France, parce que toutes nos recettes nous sont vérifiées, validées, sans faute.
Écoutez, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire un centre ou un corner. Moi, je n'arrive pas à faire une recette parfois. Dans votre édito, Philippe, vous relevez des chiffres. En 2020, les ventes de machines à pain ont explosé, plus 82%. 15% des Français en possèdent désormais une. Les machines à café, plus 55%. Les robots culinaires, plus 47%. Les friteuses, plus 25%. Et même les caves à vin, pour vous donner raison, Sophie, plus 7,5%. Le confinement est passé par là. Qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre vie, je l'imagine, mais pour vous dans votre métier, le confinement?
Alors ça a rendu les choses un tout petit peu plus compliquées quand même, parce
ah bon
que nous, on est un magazine qui produit tous ses contenus. Donc on doit se balader, on doit aller voir des chefs. La plupart étaient fermés. Donc c'était un peu triste aussi. Donc
je m'attendais à ce que vous me répondiez. Nos ventes ont augmenté parce que les Français cuisinent de plus en plus.
Alors, nos ventes ont augmenté quand même, mais pour nous, au niveau de la production, ça a été un peu plus compliqué. Ce qui a surtout explosé, c'est notre site qui a vraiment explosé, parce que là, c'était plus facile. On a en plus fait beaucoup de choses. On a fait des lives en direct avec les chefs. C'est vrai qu'on a ramené, Philippe ne me contredira pas, la cuisine encore plus chez tout le monde, chez le particulier. On s'est tous mis, et vous le premier, non, vous le disiez.
Oui, mais moi, j'essayais déjà avant. Philippe Toinard, même chose. Vous avez vu des gens qui venir vers vous, que vous ne touchiez pas avant le confinement?
Oui, parce que... alors, c'était un peu plus compliqué, parce que nous, les libraires étaient fermés. Et nous, c'est notre seul moyen d'être vendu, c'est le libraire. On n'est pas en presse. Alors en revanche,
les
libraires ont été confinés la première partie.
Ouais, ils étaient définis comme non essentiels.
C'est ça, voilà. Et donc du coup, on a eu un regain d'intérêt, mais via notre site internet. En fait, les gens se sont venus s'abonner pour pouvoir recevoir une revue à la maison puisqu'ils étaient confinés. Et puis on a des succès comme notre newsletter du vendredi qui s'appelle La Gazette, dans lequel il y a aussi les cahiers de Delphine qui sont des recettes qui sont envoyées gratuitement le vendredi.
Alors 180, c'est presque un magazine politique. Il y a une interview d'Arnaud Montebourg, ancien politique, ancien ministre, qui s'est lancé dans le miel et autres produits français du terroir. Il dit « C'est pas parce qu'on va acheter 100 kilos de carottes directement chez l'agriculteur qu'on est en train de proposer le monde d'après. Manger local, à supposer qu'on y parvienne, ça suffit pas. »
c'est un début, mais en fait, enfin, il a raison. Lui voyait une agriculture un petit peu différente pour pas demain ni après-demain, mais dans plusieurs années. Il faut revoir le système agricole et acheter un kilo de carottes, c'est bien, mais si on le fait une fois de temps en temps, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, c'est bien pour le porte-monnaie de l'agriculteur qui lui touche réellement ce pour quoi il a travaillé et pour lequel on doit lui donner le vrai prix. Mais il faut continuer et il faut intensifier sa présence auprès des agriculteurs. C'est pas compliqué, sauf dans les grandes villes évidemment. Ouais. Mais quand vous prenez n'importe quelle route, vous verrez, il y a des panneaux partout. Vente de cochons, vente de carottes, vente de fraises. Ouais. Arrêtez-vous là et faites vos courses là de temps en temps.
Je souris, j'imagine le type en voiture et qui ramène un cochon dans sa Twingo. Sophie Menu Ivanovic, vous nous le direz, vous n'avez pas attendu les écolos pour faire des produits de saison. Culture Média continue, on parle de gastronomie. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. 9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de gastronomie, on parle de cuisine et vin de France, CVF comme on dit dans le métier, avec sa rédac-chef Sophie Menu Jovanovic. Vous êtes plus que la rédac-chef, vous êtes presque la pierre angulaire. C'est vous qui portez le magazine à bout de bras, que vous faites from scratch, comme vous dites, du début à la fin. Et alors on dit 180, 180 degrés, 180 C, comment vous dites vous-même,
on devrait dire 180 degrés. Voilà.
Dans l'édito de 180, Philippe Toinard, vous écrivez que cuisiner doit maintenant s'accompagner d'un acte militant, celui de soutenir les acteurs locaux. Mais comment faire quand on habite dans une grande ville qui est la majorité des cas des Français? Imaginez une grande ville très éloignée des endroits de production, exemple les Clémentines de Corse. Quand vous êtes dans la banlieue de Lille, vous faites comment? Il n'y a plus de local ou alors il n'y a plus de clémentine? Comment on fait?
Il faut apprendre à lire les étiquettes, il faut regarder d'où ça vient.
Elles ne vont pas vous dire qu'elles viennent de Vendeuvre, les clémentines.
On peut les lire pendant deux heures, les étiquettes. Non, non, mais il y a une différence. Si vous allez au marché, vous allez faire une différence entre quelqu'un qui vend des fruits et légumes achetés à Rungis, que vous allez voir tout de suite parce que déjà, la moitié sont hors saison, et un maraîcher qui est venu avec son petit camion vendre ses propres légumes sur le marché parce qu'il a son emplacement.
J'ai choisi à dessein les clémentines. Il n'y a pas un petit maraîcher qui va arriver avec des clémentines de Corse sur un marché autour de Lille?
Non, bah alors dans ces cas-là, vous serez obligé d'aller chez votre maraîcher classique acheter des clémentines de Corse.
Où est-ce qu'il faut se passer des clémentines?
Non, parce que sur le plan...
Jusqu'où va le militantisme? C'était ça le sens de ma question.
Le militantisme, c'est de respecter les produits de saison. Ça, c'est important. On ne mange pas des cerises quand ce n'est pas la saison. On ne mange pas des fraises au mois de février, comme les grandes surfaces veulent absolument nous le faire faire. Et deux, c'est d'essayer, au-delà de respecter les saisons, de vérifier que la personne qui a produit ces fruits et légumes, ou cette viande, ou ces produits laitiers, gagne bien et gagne correctement sa vie.
Donc il faut savoir combien il est payé. Vous n'avez pas attendu les écolos, Sophie Menu Jovanovic, pour défendre les produits de saison?
Non, pas du tout. Et je rejoins ce que dit Philippe, mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus être trop extrémiste, parce que c'est bon les clémentines quand c'est la saison. Et la Corse, c'est la France. Donc c'est aussi évidemment que si on habite à côté d'un gars qui fait des asperges en ce moment, c'est plus sympa d'aller les acheter dans sa ferme. Mais il y a toujours quelqu'un qui va quand même les apporter, même dans les grandes villes. Autour de Paris, par exemple, il y a quand même beaucoup de maraîchers. Et moi, dans mon marché, il y a des gars qui cultivent eux-mêmes leurs produits. Nous, on va très loin chez Cuisine et Vin parce que, par exemple, on a une rubrique qui s'appelle « Marché de saison ». Et pour être vraiment raccord avec la saison, et parce que j'ai même honte, en fait, d'acheter, puisque si on veut faire un sujet au printemps, il faudrait qu'on le shoote, qu'on le photographie en janvier, février.
Mais oui, avec les délais d'impression.
Exactement. J'ai honte d'aller acheter des fraises en janvier pour mon sujet printemps. Donc, ce que je fais, là, par exemple, la semaine prochaine, mon équipe de stylistes et photographes vont photographier et cuisiner des recettes pour l'année prochaine, pour le marché de saison de l'année prochaine, donc avec les bons produits, au bon moment et au bon prix.
C'est ce qu'on fait aussi chez nous, on produit tout un an à l'avance.
Et je trouve ça hyper important.
Grande place est laissée, comme dans tous ces magazines, à l'illustration. Vous avez une manière un peu particulière de faire des photographies, elles sont très 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 épurées. J'ai vu qu'il y a même Patrick Zwier, qui est un grand photographe de personnalité, qui a fait une photo récemment de la ministre de la Culture, Madame Bachelot.
C'est lui qui a fait le portrait d'Arnaud Montebourg. Ouais.
Exactement, vous traitez l'image de manière différente par rapport au...
Alors, quand l'idée de ce MOOC est née, c'était en 2012, pour une première parution en 2013. Éric Fesneau, le créateur, qui est aussi l'un des photographes de la revue, a toujours dit « on n'a pas de page de publicité, donc laissons de la place à la photo ou laissons de la place à l'illustration, en plus du texte, évidemment. » Et donc, du coup, on a un système de... Si on a envie d'un coup de mettre une double page avec une double photo, parce qu'on trouve juste le coucher de soleil formidable sur la pointe bretonne, eh ben on va consacrer deux pages à la photo, parce que c'est le cœur de la revue et c'est le cœur de la direction artistique de Fabrice qui gère cette partie-là.
Vous avez des photographes attitrés à Cuisine et Vin de France?
Tout à fait. On a beaucoup de photographes, nous, parce qu'en fait, chaque sujet souvent correspond aussi à un style de photographe et on aime aussi la diversité, puisque, comme comme je vous l'ai dit, on produit tous nos contenus. Donc on a au moins une dizaine de photographes et aussi une dizaine de stylistes, puisque souvent, c'est des gens qui travaillent en duo. Et je sais que selon chaque sujet, en fait, je vais en choisir un plutôt qu'un autre parce qu'il aura sa sensibilité. Et c'est important aussi, puisque comme le dit Philippe, la photo, c'est quand même, ça fait rêver. Mmh. Et comme le dit Philippe, nous aussi, on ne fait pas que des recettes, parce qu'on ne peut pas sortir une recette de son contexte. La cuisine, c'est un ensemble de choses, et c'est vrai que c'est presque un acte politique.
Pourquoi il n'y a pas d'ours dans Cuisine et Vins de France ?
Si, il est au derrière, vous ne l'avez pas trouvé.
Alors, je ne l'ai pas trouvé.
Voilà,
alors,
vous ne l'avez pas trouvé, Philippe, il est à la fin du magazine.
Alors, je vais le retrouver. À la fin du magazine, il y avait des mots croisés, ce qui m'a vraiment étonné aussi. Mais, ouais. Voilà, mais je n'ai pas trouvé l'ours. Mais
il est là.
Il est quelque part. Oh, dis donc, il est en tout petit.
Et on a une illustration aussi, voilà. Parce qu'on aime bien aussi
l'humour. Alors, à 180... Ils ont deux pages d'ours. J'avais encore jamais vu ça. Il y a un comité éditorial, vous êtes quatre. Là, il y a une dizaine de personnes qui travaillent. Et il y a même des graphistes. Et alors, le graphiste, quand même, c'est pas n'importe qui ce graphiste. Illustrateur, Joseph Psera préfère être considéré comme communicant graphiste. Il se la pète pas un peu ?
Non. Alors, ça, non, parce qu'en fait, la petite bio que vous avez sous l'illustration de chacun de nos collaborateurs, c'est le collaborateur qui l'écrit, c'est pas nous.
Ah d'accord.
Donc il se vend pour le reste de nos confrères. Voilà.
Il me reste qu'une minute, je voudrais savoir comment ça marche et combien vous vendez tous les deux.
Alors nous, on est très fort. Hein. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, je crois qu'on a 1,2 ou 3 millions d'audience. On est très vieux aussi. Hein.
Ouais.
Et même Philippe, si on le fait pas.
Nous, c'est très différent parce qu'en fait, on vend tout le temps. On continue à vendre des numéros 1 et des numéros 2 parce que comme on n'est pas en presse, le numéro qui arrive ne chasse pas l'autre. Donc on en vend tout le temps. Mais en moyenne, on est sur 10 000 de base dès qu'il sort.
Pas de publicité, c'est gênant. Dans votre, ça vous manque ?
Non, pas du tout. C'était la volonté économique de départ de l'équipe qui a imaginé 180 degrés. Et on ne vit que parce que les gens nous achètent. Et tant que les gens aimeront la cuisine, on sera là.
Dans quelle mesure vous êtes prisonnière de la publicité ? Ce sera ma dernière question à Cuisine et Vins de France. Est-ce que vous avez déjà fait sauter un article parce que l'annonceur n'était pas content ?
Jamais.
Ou par crainte de le froisser ?
Non, jamais. On reste très indépendant à ce niveau-là.
Voilà. Il y a un test des huiles et vous verrez qu'il démonte l'huile de chez Lidl, si je me souviens bien.
Tout à fait. Hein ?
Elle s'est pris 5 sur 20, l'huile d'olive de chez Lidl, je le dis juste comme
c'est
ça.
Vrai,
mais il y en a plein
vrai.
Qui ont eu des bonnes notes et qui peuvent aussi être des annonceurs. Merci d'avoir été avec nous tous
Merci
les deux.
Philippe,
avec
hein.
ce franc-parler. Sophie Menu-Jovanovic, Cuisine et Vins de France, qui célèbre son 200e numéro, et Philippe Toinard, le rédac-chef de ce MOOC 180 ou 180 C ou 180 degrés Celsius, que c'est complexe. Merci d'avoir été avec nous. Une séquence de Culture Média du 25 mai dernier. Culture Média continue en mode rediffusion. Eddy de Préto dans un instant.
Europe 1, Culture Média.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs ? Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.